vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique la complicité de Flo Descailloux qui vous prépare des cocktails musicaux de son cru. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'un livre qui, je pense, va passionner les auditeurs. C'est un livre de Sylvain Boulouk, Meurtre à la Grange aux Belles, quand les communistes flinguaient les anarchistes. Ça vient de paraître aux éditions du Cerf. Et puis en fin d'émission, il y a Francis Vladimir qui est déjà venu dans Bibliomanie, qui est auteur, qui est poète, qui vient d'ailleurs aussi de publier JMJ aux éditions Bérénice, édition nouvelle. Francis Vladimir nous présentera aussi la programmation des mardis de Jean-Loup. Ce sont des mardis littéraires où on parle de poésie, place Saint-Sulpice, qui ont été d'ailleurs inaugurés par un poète qui s'appelait, je crois, Jean-Loup Guérin. Voilà, et il y a toujours des rencontres très sympathiques. Et comme un bonheur n'arrivant jamais seul, j'ai demandé à notre ami Francis Vladimir de nous prêter sa voix pour, comme on dit, lire des extraits du livre de Sylvain Boulouk, parce qu'il y a beaucoup de documents. Hein. C'est un travail d'archives, Sylvain Boulouk, que vous avez fait. Combien de temps ça vous a pris, ce travail de collecte de documents?
Alors, en tant que tel, quelques heures et en même temps quelques dizaines d'années, puisque en fait c'est un travail sur le long terme. C'est-à-dire que cet événement a été évoqué depuis extrêmement longtemps par les témoins, et donc c'est la lecture de ces témoignages qui m'a mis sur cette piste, et jusqu'au jour où j'ai pu trouver des rapports de police sur cette affaire, et ce qui m'a permis de compléter un puzzle qui était très fragmentaire et d'en faire un réel récit qui est une mise en perspective à la fois historique et documentaire de ces événements du 21 janvier 1924.
21 janvier ou 11 janvier?
11 janvier, je suis désolé, non, 21 janvier, c'est le centenaire de la mort de Lénine, ça n'a rien
à
voir, pardon,
mais bon.
Alors, c'est un autre centenaire.
11 janvier 1924, voilà, il y a cet événement, enfin, voilà, où les anarchistes vont laisser la vie, hein, vous allez tout nous dire sur ce jour, mais je voudrais que vous vous présentiez avant. Vous êtes historien de la gauche radicale. Quel est un peu votre parcours, Sylvain
Boulouk?
Alors,
je suis historien, donc enseignant par ailleurs.
Oui.
Et en fait, donc, j'ai commencé par travailler sur l'anarchisme. J'ai fait un premier ouvrage sur les anarchistes et les guerres coloniales qui est apparu il y a une vingtaine d'années. Et puis, en même temps, j'ai travaillé beaucoup sur le communisme avec un long séjour dans les archives dites de Moscou, donc dans les archives de l'International communiste, desquelles j'ai ramené un certain nombre de documents qui m'ont permis de faire une biographie de Maurice Trian, qui était l'inquisiteur rouge, entre guillemets, du Parti communiste, c'est-à-dire que c'est lui qui contrôlait tous les militants. Et puis un deuxième ouvrage sur les listes noires du PCF, puisque le PCF les exclus étaient fichés, non pas par les services de police, ils pouvaient l'être également, mais étaient fichés par cette police interne du parti qui était donc dirigée par le Maurice Tréant dont je viens de parler. Et puis je suis en train de terminer un autre gros travail sur syndicalisme et communisme entre les deux guerres. Et donc c'est en travaillant là-dessus que j'ai pu compléter un certain nombre d'éléments de la documentation, puisque j'ai retrouvé un certain nombre de traces de cette histoire également dans les archives à Moscou. Et le gros du dossier n'était pas à Moscou, mais était à Paris, puisque comme il y a eu mort d'homme, il y a eu une enquête policière. Ouais. Et l'enquête policière donc était accessible. Et ça a permis de construire le livre en entier avec non seulement des rapports de police, les journaux de la période concernée et puis les mémoires des militants qui avaient pu, bien des années après, expliquer un certain nombre de choses de ce qu'ils avaient vu, avec une particularité dont on parlera peut-être à la fin, qui est qui a tiré et où tout le monde s'est tué.
Oui, voilà. Vous dites d'ailleurs, l'ouvrage peut être lu au choix comme une enquête policière à suspense ou comme une analyse critique des auditions et articles de presse présentés. Pour laisser le lecteur libre du sens de sa lecture, les faits historiques sont énoncés en fin d'ouvrage. Donc il y a une liberté de lecture, ça c'est volontaire, de laisser un peu au lecteur cette liberté de...
Oui, il y a vraiment eu, de ma part, c'était une mise en perspective historique initiale sur ce que peut être la violence dans les milieux militants, ce que peut être la violence communiste en particulier, sans négliger que la violence libertaire peut également exister. Donc une première mise en perspective historique pour placer l'événement après dans un contexte de tension entre communistes et libertaires dans le cadre du mouvement syndical, laisser l'enquête se dérouler sans donner les éléments qui permettent tout à la fin de dire voilà qui a fait quoi exactement et précisément, pour justement que ça conserve un peu, alors sans être un roman policier puisque c'est vraiment un livre d'histoire, mais sans en laissant le côté enquête policière se dérouler avec l'audition des témoins, la progression de l'enquête, les révélations et alors ce qu'on verra peut-être aussi à la fin, le non-lieu, parce que personne ne veut parler aux policiers puisqu'ils sont tous garants entre guillemets de l'ordre bourgeois et qu'il n'est pas question chez des militants ouvriers de dire quoi que ce soit des forces de l'ordre.
Oui, voilà, c'est-à-dire que les aveux ils viennent pas et puis bon, c'est une enquête policière, hein. c'est aussi un
Il y a trois inspecteurs sur l'affaire. Après, il n'en reste plus qu'un, plus un juge d'instruction qui diligente les opérations. Et à chaque fois, ils sont confrontés à un silence abyssal, même, on pourrait dire, mais ce qui s'explique pour des raisons militantes de tous les témoins qui sont auditionnés.
Mmh. Alors, vous dites d'ailleurs, mais c'est vrai que ce drame, c'est un drame, hein, vous dites, ça souligne quand même la rivalité qu'il y a toujours eu entre anarchistes et communistes. Enfin, c'est il y a un point, il y a une, il y a un, ça dénote une. Parce que moi, j'en avais entendu un vaguement parler, mais je vous dis, je ne connais pas du tout l'histoire de l'anarchisme, même si je collabore à Radio Libertaire. Et j'avais cette en mémoire ça, mais là vous éclaircissez un peu le nœud du problème.
Alors il y a plusieurs nœuds à ce problème. En fait, il faut dans ce cas-là, il faut remonter quand même aux origines. C'est-à-dire que depuis les origines, il y a eu une rivalité, une conflictualité entre anarchistes et communistes qui s'appelait pas forcément comme ça, hein, puisque au XIXe siècle, les anarchistes s'appelaient communistes et les marxistes s'appelaient collectivistes. Après, il y a une inversion des termes qui se fait fin XIXe, début XX. Donc cette rivalité était théorique, pouvait être sur le contrôle ou la volonté de non-contrôle des organisations syndicales par exemple, et elle va prendre un sens différent à partir du moment où les bolcheviks arrivent au pouvoir en 1917, donc les événements vont se déplacer, ce ne seront pas seulement en France mais vont se déplacer, ou en Europe occidentale, mais vont se déplacer en Russie, et en Russie il se trouve que très rapidement les bolcheviks prenant le pouvoir, ils instaurent dès le mois de décembre 1917 une police politique qui dès le mois d'avril 1918 va commencer à arrêter alors, les anarchistes, mais pas que les anarchistes, en fait toute forme d'opposition au pouvoir bolchevique. C'est une première ligne de fracture. Néanmoins, comme la Russie à ce moment-là est loin, l'Europe est encore en guerre, les militants ne perçoivent pas immédiatement. Pendant 2 ans, il y a une espèce de phase d'euphorie en disant il y a eu une révolution en Russie, les tsars ont disparu. Alors, même si c'était plus les tsars, puisque c'était les socialistes. Hein. Je rappelle, il y a eu 2 phases. Hein. La révolution de février, qui est une révolution démocratique, qui instaure un système démocratique, puis la révolution d'octobre, qui est ce qu'on appelle la révolution d'octobre, qui est la prise du pouvoir par les bolcheviks. Et à partir de cette prise du pouvoir par les bolcheviks, donc, eux disent les travailleurs sont au pouvoir. Relativement rapidement, il y a un certain nombre d'échos qui se font, mais pas forcément dans les milieux libertaires. Ils disent, mais c'est peut-être pas les travailleurs qui sont au pouvoir, mais c'est un parti qui s'auto-proclame le représentant des travailleurs. Et à partir de 1919, et plus encore en 1920, et pour terminer en 1921, les principaux événements et les principales phases de répression sont connus. Alors, dans les milieux libertaires, il y a deux temps et deux noms qui reviennent en particulier. C'est d'abord la répression contre les paysans insurgés de Nestor, ce qu'on appelle de Nestor Makhno, mais même si l'insurrection était beaucoup plus large. Et puis le deuxième temps, c'est l'insurrection des marins de Kronstadt qui commence en janvier 21 pour se terminer dans le sang le 18 mars 21, jour anniversaire de la Commune de Paris, ce qui est aussi symboliquement assez fort, de la proclamation de la Commune de Paris. Et donc ces deux éléments deviennent des éléments de conflit entre libertaires
Et communistes.
Ce qu'il y a, c'est que ça a un des impacts dans le mouvement syndical, parce qu'au même moment, dans le mouvement syndical en France, il y a une tension très très forte entre la majorité de la CGT qui demeure sur un passé syndicaliste révolutionnaire, mais qui est en train de le faire évoluer, et une minorité composée de d'autres syndicalistes révolutionnaires autour de plusieurs courants de la CGT, du noyau de la vie ouvrière qui est animé par Pierre Menat, de communistes syndicalistes qui cherchent à renverser ou à prendre le contrôle de la CGT. Cette prise de contrôle n'a pas lieu, puisque elle se termine par une scission syndicale qui va donner naissance, donc la CGT continuera d'exister, et il y a une nouvelle centrale syndicale qui scissionne, donc elle s'appelle Unitaire, donc ça devient la CGT Unitaire, et cette CGT Unitaire, donc, qui est composée majoritairement de militants révolutionnaires, qui, tant qu'il était question de s'opposer à la majorité confédérale, arrivaient à peu près à s'entendre, et dès qu'ils se sont retrouvés tout seuls, se sont déchirés. Les syndicalistes communistes et le groupe de la vie ouvrière sont majoritaires en termes de militants dans la CGTU, ce que les anarchistes n'avaient pas du tout perçu initialement. Et dès le congrès fondateur, ils prennent le contrôle de la centrale syndicale pour ne plus jamais l'abandonner. Reste une minorité d'environ, alors une minorité d'un tiers environ sur 250 000 à 300 000 militants, qui, enfin adhérents à la CGTU, qui pendant l'espace d'un an vont se déchirer autour de cette question de l'indépendance du syndicalisme, puisque les libertaires se réclamaient du modèle de la charte d'Amiens, qui est l'indépendance du syndicalisme, et de l'autre côté, les communistes syndicaux, les syndicalistes communistes, qui disent mais il faut faire évoluer ce modèle et il faut se rapprocher du Parti communiste pour avoir un maximum d'organisations ouvrières qui soient favorables à la révolution russe. Cette tension va crescendo jusqu'à un deuxième congrès qui est le congrès de la CGTU qui a lieu à Bourges à l'automne 1923. Et là, en 1923, c'est une défaite en race campagne pour les libertaires qui ne se sont pas du tout rendus compte qu'ils avaient pas qu'ils étaient qui commençaient à être marginalisés. Ils l'acceptent très difficilement. C'est le titre du libertaire à cette date-là et la politique a triomphé du syndicalisme. Elle ne triomphera pas toujours. Donc il y a toujours cet optimisme et cette foi, cette espèce de foi dans l'avenir. Mais le fait est que la bataille est entendue. Néanmoins, ils cohabitent encore dans la CGTU. Tout, même si un certain nombre d'entre eux commencent à s'interroger en se disant est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester dans une centrale où on va faire la politique, enfin, on va être obligé d'appliquer la politique du Parti communiste. Donc, il y a cette interrogation jusqu'au 11 janvier 24 où le PC organise une réunion syndicale, une réunion dans la grande salle de l'Union des syndicats de la Seine qui est donc le siège de la CGTU. Alors, ça, en soi, il y a déjà eu des réunions politiques au siège de la CGTU, hein, la salle pouvait être loué, on retrouve des traces d'organisations politiques qui font des réunions. Là, il y a une particularité, c'est que c'est une réunion électorale dans le siège de la Maison des syndicats, et ça, pour les libertaires, c'est la preuve définitive du passage de la CGTU à une nouvelle dimension. Et un certain nombre d'entre eux décident le 11 janvier, ils ont décidé quelques jours avant, mais d'aller faire la bronca ou de porter la contradiction, comme on dit, à cette période-là, dans ce meeting du Parti communiste. Sauf que le Parti communiste ne l'entend pas du tout de cette oreille et a décidé de faire taire les contradicteurs. Et interviennent les événements tragiques qui vont se dérouler. Alors, ça commence par une bagarre, et puis on va voir que la bagarre va...
Alors, justement, on va faire intervenir notre ami Francis Vladimir, parce que pour que nos auditeurs suivent cette affaire, qui est quand même comme si on était dans le temps présent, vous voyez, on remonte le temps, on est en 1924, le 11 janvier, et donc il y a un premier, voilà Francis, si tu peux nous lire l'un des premiers documents de l'ouvrage de Sylvain Boulouk.
Rapport du commissaire spécial, 11 janvier 1924. Meeting organisé par la Fédération de la Seine du Parti communiste, salle de la Maison des syndicats, le 11 janvier 1924, 33 rue de la Grange-Aubelle. 1000 personnes environ sont présentes. La séance est ouverte sous la présidence de Baptiste, de l'Association républicaine des anciens combattants. Ce dernier demande aux assistants de placer le meeting sous la présidence d'honneur de Matteo et de Nicolao, un victime de la dictature espagnole. À ce moment, Martès, des terrassiers, s'écrie « Il y a une autre dictature que nous n'admettons pas !» Il faisait ainsi référence à des dictatures communistes. À partir de ce moment, un violent tumulte se déchaîne dans la salle. Communistes d'un côté, syndicalistes minoritaires et anarchistes en viennent aux mains. Marthe Bigot, Cachin, puis Train essaient de parler, mais le président ne peut rétablir le calme. À 21h45, alors que Train est à la tribune, le tumulte reprend de plus belle. Des banquettes sont arrachées par les anarchistes massés du côté gauche de la tribune et lancées sur les communistes. L'un de ces derniers, âgé de 25 ans environ, après s'être précipité sur les anarchistes, qu'il essaie de frapper avec une matraque en caoutchouc, se retire de quelques pas en arrière et, après avoir sorti un Browning de sa poche, fait feu à 4 reprises sur les anarchistes et les syndicalistes qui, à leur tour, ripostent par 3 ou 4 coups de feu. Les banquettes et une planche de la tribune sont jetées à nouveau sur les assistants. Plusieurs blessés assez grièvement sont transportés dans la cour à la clinique de l'Union des syndicats. Les assistants se retirent de la salle qui est à peu près vide à 22 heures. Quelques individus continuent à discuter, puis se retirent à 22h10. Signalement du communiste qui le premier a tiré les coups de feu. 25 ans environ, très légère moustache blonde, coiffé d'une casquette en tissu anglais, gris clair, veston genre touriste de même couleur, sans par-dessus, corpulence assez forte.
Merci Francis. Alors, Sylvain Boulouk, est-ce que vous pouvez juste... Quelle est votre réaction justement quand vous entendez ? On y est là, ça y est, on voyage un petit peu dans le temps.
Oui, alors donc il y a eu, pour restituer, il y a eu plusieurs appels dans les journaux, les uns pour tenir le meeting, le matin même dans le Libertaire pour appeler à la contradiction. Le soir, donc, commence cette réunion, comme tout à fait traditionnellement, puisque c'est le cadre légal, une réunion publique, depuis la loi de 1881, doit y avoir un président à la tribune, 2 assesseurs, et dans la majeure partie des cas, un commissaire spécial, surtout quand c'est des réunions de cet ordre, se rend dans le meeting pour rendre compte au cas où il entendrait des propos trop... Enfin, il rend compte de manière systématique. Sauf que d'habitude, dans la majeure partie des cas, dans les comptes rendus des commissaires spéciaux, qu'on peut dire, il fait juste rapporter les propos des uns et des autres, parfois les quelques contradictions qu'il peut y avoir. Là, ce commissaire spécial va être confronté à quelque chose auquel il ne s'attendait pas forcément, à savoir d'abord une bagarre. Bagarre qui tourne, donc qui a lieu, il y a une première bagarre qui a lieu au début de la réunion.
Oui.
Enfin, au départ, non, il n'y a même pas une première bagarre, comme il le dit. Il y a un premier militant communiste qui est le président de séance, donc qui ouvre le meeting. Il y a une concession qui est faite, puisque Barthes des Terrassiers est un libertaire qui vient prendre la parole pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et puis le meeting commence, et immédiatement, la première prise de parole, celle de Marthe Bigot, je crois, est perturbée par des vociférations, des interpellations, des coups de sifflet. Les militants libertaires avaient décidé de perturber le meeting et pas uniquement d'apporter la contradiction. S'ensuit une première bagarre, avec des coups et quelques orions qui peuvent être échangés. Puis le meeting, tant bien que mal, reprend jusqu'au moment où il y a une deuxième bagarre qui éclate, là qui prend un tour tragique, comme l'observe, pas parfaitement, mais comme l'observe le commissaire spécial, c'est-à-dire qu'il y a un premier militant qui tire, et puis peu de temps après, il y a une deuxième série de coups de feu. Alors là où il croit que ça vient du coin des libertaires qui répondent à la première série de coups de feu, en fait, on se rend compte, enfin, on verra dans la suite de l'enquête, que c'est pas la réalité, puisque le relevé des impacts de balles, dont on parlera peut-être tout à l'heure, indique que tout était dans la même direction et dans le même sens, c'est-à-dire en bas à gauche de la tribune, donc là où étaient regroupés un certain nombre de militants libertaires.
Est-ce que, Le choix des documents, est-ce qu'il y a, eu à chaque fois pas un cas de conscience, mais c'est-à-dire que je mets tel document, tel autre document, Sylvain Boulouk.
Le choix des documents, il s'est opéré. Alors, en fait, il y en a beaucoup. Cet événement, il y en a beaucoup plus. Après, pour le lecteur, ça pouvait devenir assez redondant mesure où un certain nombre de comptes rendus sont répétitifs, hein, en fait. Et puis les articles de presse, à force, deviennent un peu tous les mêmes. Donc le choix, ça a été de conserver les documents les plus éclairants ou ceux qui rapportaient des anecdotes qui permettaient de comprendre aussi les mentalités. Après, j'ai privilégié aussi l'audition des témoins. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, j'en ai retiré aucun dans la mesure où ça me semblait important de bien montrer puisque c'est ce qui fait l'articulation du livre. Comment progresser une enquête de police, parce que ça éclaire aussi la façon dont les policiers peuvent travailler quand il y a une enquête avec des homicides. C'est pas forcément quelque chose. Alors les spécialistes de l'histoire de la police le savent parfaitement. Oui. Dans d'autres milieux, on ne sait pas forcément comment travaillent les policiers. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi de
montrer les coulisses un peu.
De montrer les coulisses et de voir comment on pouvait se dérouler une enquête de type criminel, puisqu'il y a une vraie enquête et ça permettait aussi de, alors sans que ce soit un roman policier, hein, mais ça permettait quand même de donner un suspense policier, on va dire, à la progression de l'enquête.
Ça aurait pu être une pièce de théâtre.
Oui,
on pourrait en faire une adaptation théâtrale.
Ah oui, on peut en faire, plein d'adaptations. Après, moi,
parce que là, on a tous les éléments. Vous avez des portraits de personnages, comme des tirades de théâtre d'ailleurs, hein, parce que là, Francis a lu un premier document, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Combien de documents à peu près? Je les ai pas comptés.
Moi non plus. Il y en a bien 200, 300, mais.
Ouais.
En fait, comme il y en avait beaucoup, beaucoup plus, j'ai pas recompté le nombre de documents exacts que j'ai utilisés.
Enfin, il y en a beaucoup. Alors, c'est vrai qu'est-ce qu'on peut parler qu'il y a eu quand même une omerta sur cet événement? Vous dites, en effet, le drame est mentionné dans les mémoires de deux militants libertaires. Louis de Lecoin l'évoque dans De prison en prison et sa complice pacifiste et antimilitariste, la militante libertaire Mai Picret. D'ailleurs, il faudrait que vous nous présentiez cette Mai Picret, décrit la scène dans Mai la réfractaire. Est-ce que ça a mis longtemps à se décanter cette histoire?
Alors, l'histoire en tant que telle, en fait, est portée dans les milieux libertaires, dans certains milieux syndicalistes. Tout le monde le sait, tout le monde le sait parfaitement, et ça réapparaît de temps en temps. Par exemple, un militant sur lequel j'ai publié deux ouvrages qui s'appelle Julien Le Pen. Lui, il l'évoque. Il était présent ce jour-là. Il a tenté de couper la lumière pour que le meeting s'arrête et qu'il n'y ait pas de drame. Quelqu'un l'a rallumé. Et lui, dès 1936, nomme un des tireurs. Mais Le Pen meurt relativement tôt, puisqu'il meurt en février 1945. Et Louis Lecoin en parle dans ses mémoires juste après, puisque la première version des mémoires de Lecoin est publiée en 1947.
Oui.
Et après, il faut attendre effectivement Mai Picret pour que dans les milieux libertaires, cette mémoire réaffleure de nouveau. Et c'est vrai qu'à partir de la publication des mémoires de Mai Picret, c'est quelque chose qui est revenu très fréquemment dans les milieux libertaires. Alors après, quand on discutait avec des anciens ou des enfants d'anciens militants qui avaient connu cette période-là, ils étaient au courant en disant, bon, ils ont tiré, ils savaient exactement ce qui s'était passé, mais c'était pas quelque chose qui était central dans la mémoire libertaire. Il a vraiment fallu attendre Mai Picret les mémoires de Mai Picret qui paraissent en 1979 pour que cet événement redevienne connu, entre guillemets. La chose, c'est que ce n'était qu'un témoignage. Donc, un témoignage en tant que tel est toujours sujet, enfin, comme toute archive, est sujet à caution et qu'il faut pouvoir la croiser pour être certain que que ce soit un peu authentifiable. On peut pas faire de l'histoire qu'à partir d'un témoignage. Il faut toujours pouvoir croiser ses sources. Ce qui est amusant aussi, c'est que Mépicret a été auditionné. Alors là, elle s'appelle, à ce moment-là, sous un autre nom, puisqu'elle s'appelle pas Picret. Elle a pris le nom de son premier époux et oui. Elle s'appelle Mechschneider. Mais elle était là, elle a été auditionnée. Son témoignage est assez amusant parce que ce qu'elle raconte à peu de choses près et à peu près correspond à peu près à sa déclaration et à son audition par les forces de l'ordre. Et elle dit, je dirai rien. Et à 50 ans de distance, elle ne dit toujours rien. Enfin, sur l'un des tireurs. Alors que tout le monde, par contre, le connaissait puisqu'il avait une certaine responsabilité. Donc, alors après, pour ce qui est de Mépicret en tant que tel, donc c'est une jeune militante à ce moment-là puisqu'elle a une vingtaine d'années. Après, ça deviendra un peu une mémoire de l'anarchisme. Quand elle publie Mais la réfractaire en 1979.
Oui, voilà.
Mais en 1924, c'est une jeune militante qui est secrétaire dactylo de la Fédération des métaux, si ma mémoire est bonne. Et elle revient de Moscou parce qu'elle est allée en Russie dans une délégation syndicale. Elle revient de Moscou, elle a son conjoint de l'époque qui est militant dans la Fédération du bâtiment. Il décide d'aller au meeting le soir pour porter la contradiction. Ce qu'elle raconte dans ses mémoires reste à savoir si c'est entièrement vrai. Elle aurait laissé ses enfants seuls en bas âge pendant qu'elle allait à cette réunion publique. Et donc, bon, elle continue sa carrière. Alors, entre-temps, elle avait jeté puisqu'on est en pleine affaire Sacco-Vanzetti aussi. Elle avait envoyé un colis avec des explosifs à l'ambassade des États-Unis pour faire parler Sacco-Vanzetti. Donc c'est un mélange. C'est pour ça que le rapport de l'anarchisme à la violence n'est pas forcément aussi limpide. C'est pas aussi clair que ce qui peut être dit. Et puis Mépicret va continuer à fréquenter un certain nombre de militants libertaires et très proche de Emma Goldman et d'Alexandre Berkman. Après, au moment de la guerre d'Espagne, elle va s'occuper de faire passer des armes, puis s'occuper au moment de la retirada des réfugiés. Pendant la guerre, elle cachera un certain nombre de personnes, et après 1945, elle devient correctrice au Canard Enchaîné. Proche de Louis Lecoing, elle participe à l'association aux activités pacifistes de Lecoing. Il y a la mort de Lecoing, c'est un peu elle qui reprend le flambeau de l'antimilitarisme dans l'acceptation qu'avait Lecoing. Puis elle va jouer un rôle particulièrement actif dans le soutien au mouvement, aux insoumis, et aux objecteurs et surtout aux insoumis dans les années 70 jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort au début des années 80.
Bah, c'est vrai que le deuxième aspect de votre ouvrage, Sylvain Boulouk, c'est les figures d'anarchistes. À la fin, on découvre tous ces acteurs. Alors, Louis Lecoing, d'abord connu par son action antimilitariste, écrivez-vous. Au sortir de la Première Guerre mondiale, Lecoing est cimentier et délégué à la Fédération nationale des travailleurs du bâtiment. Il anime la minorité révolutionnaire, tire en l'air à blanc lors du congrès de Lille. Il participe à la scission de la CGTU. En 1924, il prône le départ de la centrale et rejoint la CGT. Et il devient correcteur lui aussi. Décidément, les correcteurs.
Le syndicat des correcteurs. A été pendant très longtemps un lieu d'accueil, enfin une espèce d'auberge espagnole où étaient accueillis un certain nombre de correcteurs professionnels et puis ça servait aussi d'accueil pour un certain nombre d'autres réfugiés qui maîtrisaient pas forcément le français mais dont les autres correcteurs par solidarité les aidaient à trouver du travail.
Et les typos aussi, les typographes.
Les typos étaient plus proches les typographes, le milieu est plus compliqué.
Ah, c'est encore plus compliqué.
Le monde des correcteurs, ça reste en partie vrai, était fortement imprégné de l'influence libertaire avec. Le syndicat des correcteurs avait à ce moment-là un certain nombre d'acquis et ils avaient bénéficié. Enfin, ils avaient obtenu un certain nombre de conquêtes sociales, ce qui fait qu'ils avaient un statut qu'ils défendaient becs et ongles Et donc, c'est un certain nombre de figures du mouvement libertaire. Il y aurait, alors, je ne sais pas si j'en parle dans l'ouvrage, mais Gaston Leval, qui est une autre figure de l'anarchisme, est devenu correcteur.
Oui.
Mais Picret est devenue correctrice. Donc, il y a nombre de militants qui sont passés par le syndicat des correcteurs.
Bon, bah on va faire une petite pause musicale. Comme ça, nous allons savoir ce qui nous attend du côté de la régie.
Bon, Sylvain, tu nous embarques en 1924. Ben, sache qu'en 1924, les Ménétriers chantaient Jean Richepin.
Noir chevaux sans mort, sans serre et sans étrier, par le royaume des morts, font de blancs ménétriers. Ils font un galop d'enfer, tout en raquant leur crin-crin, avec des archers de fer, ayant des cheveux pour crin. Pour fracarer du sabot, pour rire des violons, les morts sortent les trombeaux, dans ton lit cabriolons. Il est trépassé, joyeux, suivent par bons et soufflants, avec une flamme aux yeux, rouge dans leur crâne blanc. Et les noirs chevaux sont morts, en serre et sans étrier, font halte, et voici qu'on meurt, parle les ménétriers. Le premier dit d'une voix, sonnant comme un tympanon.
Vous avez corrigé, c'est la chanson s'appelle Les Ménétriers, c'est pas les Ménétriers qui chantent, celui qui chante c'est Louis Linel. Excusez-moi pour ma bourde.
Les morts ont répondu oui. Alors l'autre d'une voix, qui soupirait comme un corps, leur dit, pour vivre de foi, il vous faut aimer encore. Venez donc là. L'amour est mon nom, mais tous, même les plus fous, les morts ont répondu. Ah. Et de leurs doigts décharnés, montrant leurs cœurs en lambeaux, avec des cris de damnés, pour rentrer dans leur tombeau. Et les blancs ménétriers, sur leurs noirs chevaux, sont morts. Sans serre et sans étrier, on laissait dormir le.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Sylvain Boulouk, qui nous présente Meurthe à la Grange aux Belles, quand les communistes flinguaient les anarchistes, ça vient de paraître aux éditions du Cerf, et puis avec Francis Vladimir, qui nous prête sa voix pour lire des extraits de tous ces documents, ces pièces à conviction, comme on dit. Francis Vladimir vient de publier JMJ aux éditions Bérénice, édition nouvelle. Sylvain Boulouk, alors c'est vrai que votre livre, en tous les cas, montre, enfin révèle, c'est une sorte de révélateur d'une sorte de rivalité qui est assez ancienne. Hein. Vous écrivez en effet, la rivalité entre anarchistes et communistes est aussi ancienne que l'existence des deux courants. En dépit de convergence en ce qui concerne la critique du système capitaliste, les deux courants divergent sur la majeure partie des questions de fond. Vous rajoutez par ailleurs, Marx prône le dépérissement de l'État alors que Proudhon souhaite sa disparition totale. Donc il y a voilà, vous dites pour finir, Marx estime que les classes ouvrières doivent être dirigées et accompagnées dans les étapes de la rupture avec la société capitaliste, tandis que Proudhon les pense d'emblée autonomes. Marx veut alors imposer sa vision du socialisme à l'ensemble des autres courants. C'est une nuance, plus qu'une nuance, c'est un tournant très important, une ligne de démarcation très importante entre ces deux pensées.
Il y a, dès l'origine, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des différences fondamentales. Après, dans la pratique, il s'est trouvé que les points communs, mais c'est des points communs d'opposition, c'est pas des points communs étaient aussi importants. Donc, comme les points communs étaient importants et que ces groupes étaient, alors, dans l'opposition au pouvoir, alors pour les anarchistes dire l'opposition au pouvoir, c'est un peu répétitif.
C'est un pléonasme.
C'est un pléonasme. mais ils ne cherchent pas le pouvoir et la conquête du pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, ça renvoie à deux visions effectivement antagonistes, puisqu'il s'agit pour les uns de détruire le pouvoir, pour les autres de le prendre, de le conquérir, et accessoirement de le garder.
Vous écrivez d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, les uns privilégient l'action sociale alors que les autres agissent sur le terrain de l'action politique.
Oui, oui. Après, il y a des stratégies et des éléments qui sont effectivement complètement différents, puisque les libertaires vont n'agir que dans le domaine, aujourd'hui on dirait sociétal et social, alors que tous les courants se réclamant du marxisme acceptent la représentation politique. Donc c'est une des lignes de fracture qui peut exister. Néanmoins, jusqu'à 1917 et jusqu'à la prise du pouvoir par les bolcheviks, la question est plus une question d'opposition face aux différents régimes en place. À partir du moment où les communistes accèdent au pouvoir, les choses changent puisqu'ils incarnent une forme de pouvoir et ils auront cet argument d'autorité qui va être, au moins dans les années 20 et 30, qui même va continuer à fonctionner en fait jusqu'à la fin de l'URSS, c'est les communistes en URSS, enfin en Russie soviétique ou en Russie même, ont réussi à prendre le pouvoir. Donc les autres, vous avez qu'à faire pareil, après on en rediscutera. C'est ce qu'ils disent à leurs opposants et aux détracteurs. Sauf que très très vite, la ligne de fracture est importante, puisque leur prise du pouvoir signifie que, comme le dit Lénine, hein, moi je considère que une fois que je suis au pouvoir, c'est mon parti au pouvoir et les autres en prison. Donc ça introduit un biais, une rupture entre ces deux formations, mais c'est d'une autre manière cette même rupture qui existe entre qui a eu lieu au Congrès de Tours entre la majorité des socialistes qui devient communiste en décembre 1920 et la minorité socialiste qui garde la vieille maison, avec un des arguments de Léon Blum dans ce Congrès de Tours qui est de dire mais vous êtes en train de servir un État policier et vous allez créer un parti policier. Donc il y a cette dimension qui est extrêmement présente parce qu'elle n'est pas dans les traditions de la majeure partie des militants. Elle va le devenir, hein, c'est ce qu'on a appelé la grève du communisme sur le mouvement ouvrier français, mais elle ne l'était pas jusqu'à 1920.
D'accord.
Et un des éléments de cette grève, c'est aussi la violence politique que sont prêts à utiliser les communistes vis-à-vis de leurs concurrents, qui pour eux ne sont pas des concurrents mais sont des adversaires. Voilà, c'est ça aussi la nuance qui est importante, c'est que jusqu'alors dans les organisations ouvrières, il y avait la concurrence qui pouvait exister. Là, avec la naissance du communisme, on change de dimension. C'est-à-dire que on n'est plus face à des concurrents, mais on est réellement face à des adversaires. Et même ce qui peut être paradoxal, même dans les phases d'union, ce sont les militants des autres partis ne sont jamais considérés comme des alliés, c'est toujours... ça peut être des alliés tactiques, mais sur le fond, c'est des ennemis politiques.
Ok. Vous écrivez d'ailleurs, la violence des militants communistes consiste également à monopoliser la parole et à rendre celle du conquérant inaudible par des interventions orchestrées. Ça, c'est pour le fameux événement sur lequel nous revenons du 11 janvier 1924. Francis, peux-tu nous lire une autre pièce du dossier ?
L'Humanité, 13 janvier 1924. Le meeting sanglant de la Grange aux Belles a coûté la vie à deux travailleurs. Marcel Cachin, l'un communiste, l'autre anarchiste. Dans les graves incidents qui se sont déroulés vendredi au meeting de la rue de la Grange aux Belles, les faits parlent plus que tous les commentaires. Le Parti communiste n'a excité ni provoqué personne. Il usait de son droit. Il accomplissait son devoir en commémorant la date sinistre du 11 janvier, en dressant la classe ouvrière contre l'occupation de la Roure et ses résultats. En quoi un meeting organisé contre la politique de Poincaré pouvait-il gêner les libertaires ? À quoi pouvaient aboutir les menaces, les appels, les interdictions faites aux communistes de commenter les événements de la Roure selon leur conception, de les interpréter avec leur conscience de révolutionnaires ? Pense-t-on empêcher par la menace un grand parti de s'affirmer comme il entend ? Au cours du meeting, que s'est-il passé ? Une salle archi-comble acclamait le communisme. Une minorité infime a brimé 3000 ouvriers qui voulaient affirmer leur foi commune dans la haine de la politique criminelle de la bourgeoisie impérialiste de notre pays. par une provocation, pas un mot prononcé par nos orateurs qui pût justifier l'agression dont était victime notre parti. Ni avant ni pendant la réunion, aucune attaque de notre part. Et cependant, l'événement tragique s'est produit. Nous demandons maintenant à qui peut profiter une pareille guerre fratricide entre révolutionnaires. Nous demandons où elle peut conduire. Nous demandons quels résultats en peut obtenir la classe ouvrière. Nous apercevons aisément ce que les capitalistes attendent des discordes aussi aiguës. Si les ennemis les plus résolus et les plus actifs de la classe bourgeoise se mettent maintenant à s'entretuer, voilà le régime bien tranquille.
Le régime bien tranquille. Sylvain Boulouk, comment réagissez-vous de nouveau à cette lecture de ce document?
Déjà, je présente Marcel Cachin, un vieux militant socialiste passé au communisme, partisan pendant la Première Guerre mondiale du vote des crédits de guerre, mais après, évoluant, se rendant compte qu'il s'était trompé. En 1920, il fait le voyage à Moscou et il fait, avec Ludovic Oscar Frossard, fait partie de la délégation qui dit qu'il faut absolument que les socialistes adhèrent à l'international communiste, et il sera un des principaux acteurs du congrès de Tours. Puisque le nom de la motion qui fait que la SFIO va devenir la SFIO, c'est la motion Cachin-Frossard. Donc ça, c'est pour Marcel Cachin, qui continue à diriger l'Humanité, qui est un élu, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus, à ce moment-là, il est député, je crois.
Ouais.
Cachin devait intervenir au nom du Parti communiste dans cette réunion publique. Et après, donc là, il fait le surlendemain des événements, il fait la une en tant que directeur de l'Humanité, il publie un article de fond sur les événements. Avec un certain nombre de contre-vérités à l'intérieur. Déjà, la salle, alors, c'est peut-être pas dans cet article-là, mais il explique que la salle contenait 3000 personnes, ce qui est beaucoup, puisqu'en fait, on sait que la salle pouvait contenir 1000 à 1500 personnes.
Oui, d'accord.
Ça, c'est les chiffres arithmétiques et les chiffres politiques sont pas exactement les mêmes. Ensuite, il y a d'autres éléments qui sont vraiment intéressants dans son discours en disant, et là, c'est l'argument de fond que j'évoquais tout à l'heure d'une autre manière, c'est si vous n'êtes pas avec nous, si vous commencez à critiquer le régime, ça veut dire que forcément, comme la seule force à s'opposer aux capitalistes, c'est l'URSS, ça veut dire que forcément, vous êtes des alliés objectifs ou subjectifs de... Alors là, il prend l'exemple de Poincaré. Donc, vous êtes dans le camp de l'impérialisme, la réaction, enfin, tous les qualificatifs qu'on voudra. Et donc, il y a cette ligne de fracture qui existe entre eux et nous. Ce « eux », c'est tous ceux qui nous critiquent. Nous, c'est ceux qui sommes les porteurs de la parole soviétique. Alors après, dernier élément, c'est que le titre « L'un communiste, l'autre anarchiste » renvoie à ce qui s'est passé le 11 janvier dans la soirée, puisque donc, on relève la majorité des blessés, mais 3 blessés sur 4 sont dans les rangs libertaires. 2 morts sur 4 sont dans... Alors, 2 morts sont dans les rangs libertaires, mais un des deux... Alors, un est clairement identifié comme anarchiste. C'est un militant anarchiste de longue date, déserteur pendant la Première Guerre mondiale.
Oui.
Le second était abonné à l'Humanité. Et cet abonnement à l'Humanité fait que les communistes disent s'il était abonné à l'Humanité, c'est qu'il était communiste. Or, non, il n'était pas... Enfin, il n'y a aucune preuve qui puisse dire qu'il était communiste. Il était dans la salle et il a essuyé il a pris une balle parce que visiblement il était avec ses copains libertaires et qu'il n'était pas au bon endroit. Et puis il y a un deuxième dans les blessés. Il y a aussi un militant du Parti communiste qui aussi. Alors on peut supposer que les tirs l'ont atteint parce qu'il était en train de se bagarrer au même moment où d'autres tiraient.
Ouais, dans la confusion.
Dans la confusion générale. Mais Ce que fait Cachin là, à travers cet article, l'un communiste, l'autre anarchiste, c'est qu'il essaye de dire, bon, en fait, c'est de la faute de personne, et ça ne profite qu'à une chose, c'est au régime, d'une part, et peut-être, enfin, c'est peut-être un peu plus loin, ou peut-être pas cet article, je ne me souviens plus exactement, dans un deuxième article, on dira, bah, finalement, c'était une provocation policière, et là, l'argument suivant, ce sera, en fait, ces perturbations ne font qu'une... n'était l'objectif que de la police pour déstabiliser le Parti communiste. Et donc, on en revient toujours au premier argument, qui est de dire si vous n'êtes pas de notre côté, ça veut dire que vous êtes forcément du côté du pouvoir en place.
Oui, il y a un autre personnage aussi, Albert Train, qui pourrait peut-être nous présenter.
Alors, Albert Train est aussi... ça renvoie à l'histoire du Parti communiste. Albert Train, le Parti communiste est en ce qu'on appelle en voie de bolchevisation. Et il y a eu un changement de secrétaire du parti. Donc, précédemment, c'était Ludovic Oscar Frossard qui dirigeait le parti. Puis après, il y a une direction collégiale qui a pris la tête du parti. Et Albert Train s'impose comme le nouveau secrétaire du parti. Et Albert Train a une vision très... Alors, il engage ce qu'on appelle la bolchevisation, donc qui va être une structuration encore plus radicale des modes de commandement dans le parti, avec une obéissance. C'est le moment où les anciennes sections socialistes qui composaient les sections communistes deviennent des cellules. Donc il y a une récification à ce moment-là du parti français. Et Albert Train donc conduit cette récification et... Ce qui se trouve, c'est que cet ancien instituteur est un militaire, fait tout son service militaire, et il est connu pour une vision très, très militaire de la politique et de l'organisation des consignes et de l'organisation du parti. Donc, il est à la tribune en tant que secrétaire du parti, et à ce moment-là, il va donner des ordres. Et il avait prévu, enfin, c'était prévu auparavant, il s'agissait de plus perturber les meetings du Parti communiste. Mmh. Et donc, Train répond à organiser un service d'ordre très musclé.
Oui, c'est pour ça que
pour protéger le meeting, entre guillemets, et pour surtout empêcher toute forme de contradiction. Et c'est à la suite de ces événements qu'il n'y aura plus, pratiquement plus à Paris, tout du moins, de contradictions dans les rangs, dans les meetings du Parti communiste. Ça semblait relativement dangereux de tenter d'aller porter une voix différente dans ces meetings-là.
Ok, on va faire une petite pause musicale. Voilà, ça va nous détendre un petit peu, parce que là, il y a du tangage dans l'air.
Alors, on reste en 1924, et il y avait une grande dame du blues qui chantait le blues du soul pleureur, c'est Bessie Smith. Je n'arrête pas de me tromper, c'est pas Bessie Smith, je me suis trompée de morceau. The willow tree, the dewdrop.
don't come back to you. I tell you what to do. Just jump right overboard, cause he ain't no more to you. Folks, I love my man. I kiss him morning, noon, and night. I wash his clothes and keep him clean and try to treat him right. And he's gone and left me after all I tried to do. The way he treats me, girls, he'll do the same thing to you. That's the reason I've got those weeping willow blues.
Voilà. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez toujours l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Sylvain Boulouk qui nous présente Meurtre à la Grange aux Belles, quand les communistes flinguaient les anarchistes. Ça vient de paraître aux éditions du Cerf. Et Francis Vladimir qui nous a prêté sa voix et qui va continuer à nous la prêter un petit peu pour parler d'autre chose tout à l'heure, qui vient de publier JMJ Bérénice édition nouvelle. Sylvain Boulouk, alors je voudrais un petit peu savoir aussi enfin, l'épilogue de l'affaire, si vous pouvez nous raconter ça. Et puis aussi il y a la réaction des libertaires, des anarchistes, c'est-à-dire par exemple les anarchistes n'accuseront jamais personne devant aucune justice, ils ne veulent pas faciliter le travail du juge d'instruction chargé de l'enquête. Après, on peut lire, la fédération anarchiste fait appel dès aujourd'hui à la grande masse des travailleurs, mais prévient les assassins directs ou indirects qu'elle ne tolérera pas leur présence dans leur cortège. Comment de leur côté ont réagi après cet événement considérable? Quel était le changement côté libertaire?
Alors, il y a plusieurs changements. Sur le plan syndical, la quasi-totalité des libertaires, mais ça va plus loin que ça, quitte la CGTU sur le thème « on peut pas rester avec des assassins ». Ça, c'est la première chose. Dans la CGTU, deuxième chose, il y a une commission d'enquête qui est établie, enfin qui est mise sur pied, avec quatre majoritaires, donc quatre pro-communistes et deux minoritaires, plutôt un syndicaliste sans appartenance militante et un libertaire. Cette commission d'enquête n'aboutit pas réellement dans la mesure où, même si tout le monde sait ce qui s'est passé et tout le monde sait qui a tiré, les uns veulent publier un certain nombre de documents que refuse la majorité de la CGTU, donc la majorité communiste de la CGTU. Donc ça accélère encore un peu plus les dissensions. Ça, c'est pour ce qui se passe, les conséquences sur le terrain syndical, ce qui fait que les libertaires qui ont quitté la CGTU vont fonder une organisation éphémère qui s'appellera l'Union Fédérative des Syndicats Autonomes, qui elle-même se scindera en deux. Une partie d'entre eux retourneront à la CGT historique, et l'autre partie fondera ce qu'on a appelé, entre les deux guerres, la CGT SR, donc la CGT syndicale révolutionnaire. Ce qui fait qu'en 1926, on a trois CGT. Mais ça, c'est anecdotique par rapport à au propos. Il y a plusieurs temps dans la réaction après des libertaires aux événements directs. Premier temps, c'est par voie de presse de dire, de raconter ce qui s'est passé réellement dans le meeting, de dire nous étions du côté à droite de la tribune, les balles viennent dans notre sens. A priori, c'est pas nous qui avons tiré sur les communistes. Effectivement, les expertises diverses et variées montrent que les balles vont dans un sens là où étaient regroupés entre guillemets les perturbateurs. Après, il y a le deuxième temps qui est relativement rapide, qui va être le temps des obsèques, puisqu'on a d'un côté Claude qui va être revendiqué par le Parti communiste.
Et la reconnaissance des corps aussi.
La reconnaissance des corps, elle est relativement rapide, puisque les corps sont sur place, ils sont identifiés assez facilement. C'est juste une reconnaissance. Ouais. Par la famille. La deuxième chose, c'est donc les enterrements. L'enterrement de Poncet est massif, suivi par un nombre important, plus de 4000 personnes de militants, mais pas que des militants libertaires, puisqu'il y a une délégation de la CGT, il y a une délégation de la SFIO, il y a un certain nombre de personnalités qui viennent témoigner de leur solidarité avec les libertaires et dénoncer de fait les exactions communistes. Et il y a Claude qui est donc récupéré par le Parti communiste. Il y a un petit cortège qui est organisé autour des funérailles de Clos, pour dire bah, il était à nous, et vous voyez donc que cette histoire ne tient, enfin donc qu'il n'y a pas eu de qu'on est tout aussi victime que les anarchistes. Donc ça, c'est le moment immédiat. Au même moment, enfin, dans le même temps, il y a la troisième chose qui est l'enquête policière. Parce que l'objectif du juge d'instruction qui vient d'être nommé et des policiers qui conduisent l'enquête, c'est quand même de trouver d'établir qui a fait qui et qui a fait quoi, et de trouver le ou les coupables. Sauf que à ce moment-là, personne ne parle. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde sait qui c'est, tout le monde sait parfaitement qui a pu participer à cet événement, mais personne ne veut dire quoi que ce soit aux forces de l'ordre en disant ce sont d'un côté comme de l'autre, ce sont des garants de l'ordre bourgeois et nous réglerons notre affaire entre notre histoire dans le monde syndical. Ça ne concerne pas la justice bourgeoise.
Voilà.
Et à partir de ce moment-là, il y aura un mutisme à peu près complet. Alors, il y a quand même quelques lettres de dénonciation qui arrivent anonymes, mais qui arrivent en disant bah, c'est machin. Mais personne. Et puis, c'est une lettre anonyme, c'est difficile. Alors, le policier qui conduit l'enquête sait qui a fait quoi. Tout le monde arrive à établir à peu près qui a fait quoi. Sauf que c'est de la justice. On est dans une affaire de police et de justice. Mmh. Et que pour établir qui a fait quoi, il ne faut pas juste des témoignages, il faut des preuves matérielles. Et l'un des deux concernés, l'autre ayant disparu dans la nature, peut tout à fait. Peut avoir un alibi en béton qui lui permette de ne pas être inquiété outre mesure. Alors pour la toute petite anecdote, c'est que les communistes sont quand même relativement inquiets. Et ce que j'ai retrouvé à Moscou, là, c'est qu'ils proposent quand même qu'il aille faire un stage relativement long en URSS pour se protéger et protéger l'enquête, enfin protéger le milieu militant dans lequel il était. Mais il n'y a pas de réel. Enfin, personne ne parle réellement dans ces milieux pour dire voilà, telle personne a fait telle chose. Il y a un mutisme complet qui finalement favorise.
Toutes les thèses, en fait, après, non ?
Pas toutes les thèses, parce que. D'une certaine mesure, oui, ça favorise pas toutes les thèses, en fait. Ça favorise, de fait, le silence a favorisé.
Chacun peut.
Non. Le silence a favorisé ceux qui ont tiré.
Oui.
À partir du moment où les tireurs, si les tireurs avaient été confondus, il aurait été beaucoup plus compliqué pour le Parti communiste de dire c'est pas nous. À partir du moment où personne ne dit rien, là, effectivement, il peut y avoir renvoi de la balle et silence complet. S'il y a un changement, si quelqu'un avait commencé à parler réellement aux forces de l'ordre, les choses auraient pu être différentes, parce que effectivement là, il aurait peut-être eu suffisamment de témoignages pour indiquer qui avait fait quoi.
Vous parliez tout à l'heure de la trajectoire de la balle, enfin vous parliez un peu de.
Ça suffisait pas. Parce les balles, l'expertise balistique, enfin ou les tirs provoqués ne suffisent pas dans la mesure où il faut retrouver l'arme du crime. Après, des témoignages et un certain nombre d'éléments auraient peut-être permis de confondre plus facilement les tireurs. Comme toute preuve avait disparu, toute preuve matérielle avait réellement disparu, ça devenait plus compliqué.
Est-ce que vous avez des réactions à la publication de cet ouvrage, Sylvain Boulouk? Est-ce qu'il y a des gens qui disent c'est bien que tout soit, ces documents soient enfin réunis, parce que quand même c'est un travail d'enquête, c'est un travail de recension. Enfin, là c'est dans un livre, voilà, on a l'affaire.
Les échos sont faits qu'en fait les personnes qui connaissaient l'affaire sont contentes d'avoir les résultats définitifs entre guillemets, même si tout le monde se doutait un peu des résultats. Mais là les preuves policières permettent quand même de voir comment se sont déroulées les choses, et puis après pour le reste, c'était un événement qui était quand même complètement oublié. Donc,
Les
personnes qui ne connaissaient pas découvrent l'événement.
Avec des.
Alors après, ce qui est révélateur, c'est aussi sur la violence communiste dans les années 20, puisque c'est quand même une violence qui. Alors, pas avec un tour aussi tragique, mais une violence qui devient. Qui a été récurrente et qui. Alors, après, c'est une question de nuance. Je ne dis pas que les communistes ont systématiquement tiré sur les autres militants. Mais par contre, l'usage des armes, le port d'armes était quelque chose d'extrêmement fréquent. Dans d'autres travaux, on peut trouver par exemple que le futur secrétaire du parti, Maurice Thorez, avait systématiquement deux pistolets dans ses poches dans les années 20. Donc il y a un rapport à la violence qui est difficilement imaginable aujourd'hui. On imagine difficilement un homme politique se balader avec deux pistolets dans ses poches. Mais après, il faut le recontextualiser aussi. C'est un parti de révolutionnaires professionnels qui souhaite à un moment passer à l'action révolutionnaire et qui pose la question de la prise du pouvoir de manière violente, d'une part. Et puis, d'autre part, l'arrière-fond qui est important. À plusieurs reprises, j'ai mentionné des personnes qui avaient participé ou qui étaient favorables à la Première Guerre mondiale. On sort de la Première Guerre mondiale. Donc, on est dans une société où la violence est quelque chose de naturel, normal, parce que, en France, il y a eu plus d'un million de victimes. Il y a des gueules cassées qu'on croise à tous les coins de rue. Donc, il y a cette violence de la Première Guerre mondiale qui se retrouve et qui se déplace dans le champ politique. Alors, peut-être pas avec autant de force que dans d'autres pays comme l'Allemagne ou comme l'Italie ou comme la Russie, mais la violence n'est pas absente. Elle est canalisée plus facilement, mais elle n'est pas absente de la société française ou d'un autre pays qui a eu pas mal de soldats sur le conflit, de la société anglaise. Donc cette violence existe, elle est la conséquence de plusieurs choses, à la fois de la Première Guerre mondiale, de la violence de la Première Guerre mondiale qui se retransposer dans le champ politique, de la violence propre au mouvement révolutionnaire et en particulier au mouvement communiste, et c'est la conjonction de ces phénomènes qui aboutit aussi à ce qui se passe le 11 janvier 1924.
Voilà, puis alors on peut découvrir, il y a des femmes libertaires, par exemple Germaine Berton, Marthe Bigot, parce que c'est tous les acteurs que vous ressuscitez aussi derrière tout ça. Oui. C'est que des vies, c'est la fascination aussi du travail d'archives, parce qu'on voit des noms surgir comme ça. Marie Guyot, par exemple, institutrice militante à l'école émancipée, opposée à la guerre, elle participe, dites-vous, à la fondation de la Fédération Unitaire de l'Enseignement. Voilà, il y a toutes ces figures, des premiers rôles, des seconds rôles.
Oui, alors, j'ai essayé j'ai fait un petit X pour les lecteurs, j'ai fait un petit dictionnaire à la fin, comme il y a un certain nombre de noms qui sont
tout à fait.
Plutôt qu'on envoyait aux notices du métro, parce que quand vous êtes en train de lire un livre, c'est pas forcément évident. J'ai essayé de. Alors, j'ai pas pris tous les noms. J'ai pris que les principaux noms, ce qui fait quand même déjà
une vingtaine
de pages, les principaux acteurs. Mais il s'agissait de restituer un certain nombre de biographies pour que se rendre accessible le livre et refaire vivre ces différents personnages. Alors, Germaine Berton, c'est une jeune militante libertaire qui, elle aussi, n'hésitera pas à utiliser la violence, puisque c'est elle qui va assassiner. Elle voulait assassiner Charles Maurras, donc le dirigeant monarchiste, et puis elle ne le trouve pas. Donc, elle assassine à sa place Marius Plateau.
Voilà, elle a assassiné, remplace l'autre, Marius Plateau, il n'a pas eu de chance.
C'était le responsable du service d'art de l'Action française.
Oui, bon.
Ce qui veut dire que dans les milieux libertaires, la violence n'est pas non plus totalement absente. C'est ce que je voulais dire. Alors, par contre, Marthe Bigot, elle est de l'autre côté, puisqu'elle est du côté communiste. Comme à ce moment-là.
Trotsky aussi.
Elle deviendra Trotsky.
Voilà.
Et comme Lucie Collard, qui anime la Fédération Unitaire de l'Enseignement, on a ces deux institutrices qui sont plutôt le genre du meeting de l'autre côté, même si après elles évolueront vers une opposition au communisme officiel et vers des dissidences communistes, mais à ce moment-là elles sont proches ou militantes du Parti communiste.
Alors, avec des figures comme Pierre Monat, Pierre Sémar, Jules Tolade, c'est ça aussi qui est fascinant dans votre livre. Je trouve que on a toute une époque, une époque. Je pense que c'est volontaire,
c'était restituer une époque, et puis c'est ceux qui interviennent. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on connaît plus ou moins et d'autres qu'on connaît moins à cette période-là ou dans d'autres périodes. Mais c'est vrai que le temps passant, ça devient des figures qui sont plus ou moins oubliées. Donc il était absolument nécessaire pour
de raviver...
d'aider à se souvenir de...
Après,
j'en ai découvert aucun. Enfin, tous sont pratiquement leur notice dans le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier.
Oui, hein, voilà.
Mais il s'agissait de synthétiser les principales connaissances qu'il pouvait y avoir dessus. Bon, et puis de temps en temps, il y en a un ou deux, j'avais des éléments complémentaires, donc j'ai rajouté ces éléments complémentaires. Mais là, c'était vraiment pour aider le lecteur dans la progression et dans le récit, puisque c'est une enquête où il y a quand même un nombre d'acteurs qui interviennent qui est important. Et il risquait de se perdre si jamais il n'y avait pas ce petit dictionnaire à la fin.
Bah oui, bah c'est très bien. On va faire une pause musicale et après nous reprenons notre conversation.
Alors, pendant ces années 20 et 30, il y avait une grande chanteuse française. On reste dans l'époque hein, pour la musique. C'était Damia qui chantait « Tout fout le camp ».
Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux. Et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un cri, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou. C'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde, cramponnez-vous, tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, à nous. La vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors?
Eh oui, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. Pourquoi se creuser la cervelle? Mais vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui, on parle du livre de Sylvain Boulouk, Meurtre à la Grange aux Belles quand les communistes flinguaient les anarchistes. Ça vient de paraître aux éditions du Cerf. Et nous allons parler avec Francis Vladimir, qui vient de me publier JMJ, Bérénice édition nouvelle. Francis Vladimir va nous présenter Les Mardis de Jean-Loup. Alors, Jean-Loup Guérin, on en avait déjà parlé, Francis, mais tu peux peut-être présenter aux auditeurs ces fameux rendez-vous tous les mardis dans le fameux café de la mairie de la place Saint-Sulpice.
Oui, le fameux café de la mairie de la place Saint-Sulpice.
Oui.
Donc, ce sont des rencontres littéraires qui ont lieu tous les mardis et qui ont été initiées par Jean-Loup Guérin. Jean-Loup Guérin qui a officié pendant 20 ans. Mmh. Et puis Jean-Loup nous a quittés en 2018. Et c'est donc la sixième saison, hein, nous raisonnons en saison, la sixième saison que nous que nous avons perpétué en termes de rencontres,
oui.
Dans ce lieu qui est un peu magique, hein. C'est dans la petite salle du haut, salle qui peut accueillir 30-35 personnes, qui a gardé sa couleur, j'allais dire sa saveur en fait de l'époque.
Hein. Un peu vintage.
Puisqu'on peut y manger, on ouais. boit bien sûr,
c'est
et,
sûr.
On se gorge aussi de mots de... qui sont des mots de poésie, mais des mots aussi de romans, d'essais, de théâtre, de nouvelles. Voilà. C'est donc, comment dirais-je, une programmation qui est faite, on est un petit groupe, hein, il y a Jean-Claude, Carole, Charles-Alex, Viviane, moi-même. Et on propose donc sur à peu près 30 mardis, hein, c'est 32 mardis sur notre saison qui va de septembre à juin.
Ouais.
Hein, nous proposons donc à l'auditoire qui veut bien se déplacer.
À 20h, hein, c'est ça.
De 20h à 22h. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid.
Oui, des fois il fait froid, voilà.
De se déplacer donc jusqu'à ce premier étage, voilà. C'est à peu près 600 personnes qui viennent écouter en fait
les invités. Ah oui,
hein, ça paraît modeste, mais finalement dans une petite salle de 30-35 personnes tous les mardis, je considère que c'est pas une réussite au sens massif du terme, mais c'est une présence constante en fait d'amoureux du livre qui viennent donc systématiquement le mardi nous retrouver, qui va nous retrouver.
Alors les prochaines. Alors c'est vrai que Jean-Luc Guérin, hein, c'était une figure. C'est un poète, une figure marquante pour tous ceux qui ont connu les mardis de son nez, de son temps à lui. Puis maintenant, avec l'aventure continue. Quelles sont les prochaines rencontres, alors, Francis?
Alors, les prochaines rencontres, puisque notre programme a été bouclé jusqu'au mois de juin, alors je ne dirai pas jusqu'à fin juin, mais je vais vous dire peut-être, vous parler de février et de mars.
Hein. Oui.
Hein, voilà. Alors, en février, il y a un dernier mardi, puisqu'il y a les vacances scolaires, donc les vacances scolaires, on fait un break, tout de même. Comme je dis souvent, les mardis, ça revient toutes les semaines. Et c'est parfois, comment dirais-je, c'est pas que ce soit lourd, mais il y a une rythmique, en fait, à avoir presque. Hein. C'est presque une pulsation. Et donc, cette pulsation, pour qu'elle puisse se faire normalement tous les mardis, il faut que de temps en temps, il y ait un break. Et nous, ce sont les vacances scolaires, les breaks. Alors, on reprendra le 27 février.
Oui, oui.
Avec... deux maisons d'édition. La première maison d'édition, ça sera les éditions Lunatiques avec deux auteurs.
Oui.
Un poète, Florian Bardou, pour Les garçons, la nuit s'envole. Donc on est dans une écriture la poétique, une écriture très très pêchue, hein, je dirais, du corps des hommes. Hein. C'est très clair, c'est très net, c'est affiché. C'est l'éros masculin, voilà. C'est à la fois frontal. Hein. Et en même temps, ça, c'est un texte qui bouge quand même quand on est lecteur, qui bouge le lecteur. Donc, il sera là pour son livre.
C'est avec des lectures, hein, je tiens à dire.
Avec des lectures, bien sûr.
Voilà.
Et dans le même temps, couplé donc à Florian Bardou, il y aura donc toujours les éditions Lunatiques, Mon ami Junger de Thomas E. Alors, je connais pas du tout Thomas E, mais j'ai lu son livre, puisqu'une des, comme tu le sais, une des obligations que l'on se donne, c'est de lire quand même les
ouvrages.
Oui. alors là, c'est assez étonnant. C'est un livre qui est une succession de courts textes où l'ami Junger, en fait, c'est le double, en fait, du narrateur, de celui qui nous raconte les petites scénettes, en fait, que l'on va lire du début à la fin du livre. Ce sont pas tout à fait des nouvelles, ça pourrait être des petites scénettes de théâtre, on sait pas très bien ce que c'est, ce sont des impromptus de la vie. Voilà. Et cet ami Junger, il est assez étonnant. Il est tout à fait étonnant parce qu'il il a des réactions, des configurations, des couleurs, des réactions, des apparitions, des disparitions. Tout ça, d'une page à l'autre, on ne sait pas où il veut nous mener, si ce n'est que l'on sent tout de même que c'est un interlocuteur que se donne peut-être le narrateur pour peut-être s'expliciter lui-même. Pour savoir ce qu'il est.
Et c'est toi, c'est qui ça sera présenté par? Parce que chaque rencontre.
Alors là, ces deux livres seront présentés par Pascal Gauze, l'éditrice, et Viviane Campomar. Mais cette soirée sera aussi une soirée où j'accueillerai, moi, pour ce qui me concerne, Maëlène Lebray, pour un livre qui s'appelle La mer, aux éditions du Penseur. Penseur avec un A. Et alors, ce sont les éditions du Penseur qui se trouvent dans l'Ain. C'est un jeune éditeur. Moi, je l'ai découvert il y a 2 ans. Je vais faire un peu la pub pour Jérémy M. Il doit être à peu près à une quinzaine d'auteurs édités. Et je dois dire que tous les livres en fait qu'il a pu éditer m'ont profondément marqué en tant que lecteur. Voilà, c'est lui qui a édité par exemple le 4e roi mage d'Antonio Exposito. Voilà. Et La mer, c'est un livre sur le corps féminin. Au moment de la gestation de l'enfant, en fait. Et comment le corps de la femme se retrouve n'être qu'une forme, un amer presque, qui est assailli par les regards. C'est à la fois très dérangeant, extrêmement dérangeant, parce que ça va à contre-courant de ce qu'on dit sur la grossesse, voilà. Et en même temps, c'est très libérateur. Voilà, d'accord. C'est un texte qui n'est pas très très long, mais qui a une force, voilà, qui a une très grande force.
Et donc,
pour le 27 février.
Alors là, c'est le 27 février. Ouais. Alors après, au mois de mars.
Je suis bavard avec les auteurs qui passent au café de la mairie. Alors le 5 mars, c'est Viviane Campomar qui va présenter dans Vous allez les déranger de Gilles Bertin, mon charmant. Donc c'est un texte que moi je n'ai pas encore lu. C'est une série de d'histoires qui nous sont racontées. Des histoires sur le trouble, des enquêtes un peu sur la filiation, sur l'amour, sur l'archéologie, le burn-out, en fait des histoires différentes qui traversent un peu notre monde contemporain. Je peux pas en dire plus.
Oui.
Par contre, le mardi 12 mars, ce sera une soirée théâtrale avec un jeune auteur qui s'appelle Stanislas Nazeri. Il sera accompagné par un homme de théâtre, Patrick Agiag, qui est un metteur en scène. Et Stanislas est un dramaturge, il doit avoir 34 ans. Et il commence maintenant à se faire un peu connaître avec ses premières pièces de théâtre. Donc il va venir en tant qu'écrivain, enfin, pour son écriture théâtrale, et il va venir aussi pour son écriture poétique. Et enfin, le 19 mars, ce sera deux poètes, Serge Carbonel, qui est publié au Poète français. Et pour un livre qui s'appelle Un dur confinement. Donc, c'est une poésie qui part très lyrique, très belle écriture, et qui part du confinement. Ce n'est pas une vue sur le confinement très serrée, très, très resserrée au sens d'un emprisonnement. C'est en fait quelque chose qui ouvre l'espace intérieur pour aller au dehors et interroger aussi ce manque que nous avons pu avoir à un moment donné de ne pas pouvoir bouger comme nous voulions le faire. Et le deuxième poète qui est invité, c'est Jean-Luc Evans, chez Thierry Saja, éditeur de poésie. C'est un poète qui est très investi dans le monde associatif, auprès des autres. J'ai lu son texte, une grande humanité. Je l'ai juste croisé au dernier mardi littéraire, je ne le connaissais pas, donc ce sera l'occasion pour moi de le retrouver. Et enfin, le 26 mars, un livre qui n'est pas paru encore, qui m'a été donc signalé par les éditions du Chemin de Fer, François Grosso, on en a discuté au téléphone. Ce soit Nucleus, de Zinaïda Polymenova. Et je pense qu'on va partir là, du côté de la Bulgarie. Mais je n'ai pas encore le livre. Il va sortir au mois de mars.
Il va sortir au mois de mars. Alors, on peut, il y a un site là, pour les mardis de Jean-Loup, pour les auditeurs. Comment ils font
On peut, si vous voulez, taper sur Facebook les mardis littéraires de Jean-Loup. Ou on peut trouver donc, la programmation.
La programmation.
Mardi après mardi.
Ou alors se pointer à 20h.
Se pointe à 20h.
Un mardi.
Et voilà.
Au café de la mairie.
On est curieux.
Dans la fameuse salle du haut. Et Francis, Vladimir, vous venez aussi de publier JMJ, on en reparlera ultérieurement. C'est un livre de nouvelles ou c'est...
Non, c'est une fantaisie.
C'est une fantaisie. Bon.
C'est une fantaisie, voilà, au sens où Kundera considérait toujours qu'il partait de fantaisie.
Tous les cas, la couverture est très belle. Hein.
Ouais, merci.
Très très belle, ça vient de parler. JMJ aux éditions Bérénice, édition nouvelle. Et vous aussi, Sylvain Boulouk, votre couverture, votre éditeur, regardez là, il vous a fait une magnifique pour Meurtre à la Grange aux Belles avec une sorte de carte. Enfin, il est beau le visuel. Hein.
Oui, ben il a repris le graphiste a repris la photo de une des photos qui existe sur la maison des syndicats.
Bien.
Qui deviendra le siège de la CGTU à partir de 22, pardon. Et il a retravaillé, ce qui fait qu'il donne un côté vieillot assez...
C'est sympa, hein, c'est vraiment... Il y a un autre livre, Sylvain Boulouk, vous m'en parlez, qui est aussi paru.
Je viens de publier participer à un ouvrage collectif sur Missak et Méliné Manouchian, sur la panthéonisation, les enjeux de la panthéonisation, leur rôle réel dans la résistance, donc en allant un peu à un contre-courant des légendes qui circulent actuellement, de la glorification, en essayant de me restituer à la fois ce que peut être la panthéonisation, les enjeux mémoriels d'une panthéonisation, qu'est-ce que ça veut dire. Deuxième chose, les enjeux de l'affiche rouge, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est une affiche de propagande nazie qui est reprise par le Parti communiste et transformée par le Parti communiste et surtout par la chanson de Léo Ferré. Et puis l'enjeu actuel autour de la panthéonisation des étrangers dans la société, de la place des étrangers dans la société française. Donc c'est une tentative de mise en perspective historique de ce que peut être la panthéonisation. Deuxième mise en perspective historique, c'est les différentes mémoires qui ont pu exister à ce sujet, de montrer que on dit toujours, il n'y a pas eu de travaux dessus, ça fait partie quand même des objets les plus étudiés, alors avec un paradoxe qui est les plus étudiés, mais surtout personne n'est allé voir les archives, ça c'est un peu bizarre, et donc c'est cet aspect-là, et puis troisième aspect, c'est de voir quelles étaient les actions de ces groupes de résistants, et de les restituer dans la polyphonie, ce qu'a pu être la résistance, et leur rendre à la fois leur place réelle, et justement pour leur rendre, pour dire exactement ce qu'ils ont fait, et pas ce qu'on a pu extrapoler par la suite.
Une question que je vais vous poser d'ailleurs à tous les deux. À quoi ressemble votre bibliothèque, Sylvain Boulouk ? Après, ce sera au tour de Francis de répondre.
À quoi ressemble ma bibliothèque ?
À quoi elle ressemble, votre bibliothèque ? Elle est spécialisée dans l'histoire de la
Ah oui, elle est légèrement monomaniaque, on va dire.
Oui.
Elle est plutôt orientée. Alors, il y a beaucoup de livres sur le communisme. Beaucoup de livres sur l'anarchisme, beaucoup sur le syndicalisme, et puis très peu de romans ou de pas de poésie pratiquement, je dois le reconnaître. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des BD.
Oui, des BD.
Et puis, dans le temps, il y avait des enquêtes policières aussi. Pas mal de romans policiers.
Ah, vous auriez pu faire un roman policier sur ce meurtre. C'est presque un titre de roman policier.
Ça se voulait un titre de roman policier, mais ça n'est pas un roman policier parce que je ne suis pas romancier, je ne suis pas littéraire du tout, je suis historien. Donc, je peux pas. Chacun son domaine de compétence et sa spécialité. Je ne vais pas m'inventer autre chose que ce que je suis.
Bon. Francis Vladimir, alors, la bibliothèque, à quoi ressemble. Poésie.
Ne pas me poser. Moi, c'est un peu un foutoir.
Bibliothèque.
Au sens, c'est une vraie besace. C'est-à-dire que j'accumule les livres au fur et à mesure comme ils viennent, suivant mes coups de cœur. En sachant bien sûr que j'essaie de me dire que la poésie, elle est au garage, en fait, tout simplement, parce qu'il y a des étagères et donc je sais que je peux aller la chercher là-bas. Ensuite, comme j'ai une vieille maison, c'est compliqué de faire quelque chose d'homogène en termes de de bibliothèque, l'objet bibliothèque. Bon, il y en a un peu partout.
Il y en a partout.
Voilà, ah, et puis il y a surtout, il y a aussi quand même surtout des choses que j'aime. J'aime acheter des vieux livres. Et par exemple, quand j'ai lu Proust, parce que je l'ai lu assez tard, je suis allé donc sur les quais de Seine et j'ai acheté en fait les éditions que j'ai trouvées de Proust, qui datent des années 20. Voilà, j'avais envie de le découvrir dans
l'époque. Ah bah décidément.
Dans l'époque,
dans les années 20, là,
les archives, il est allé dans l'époque, en fait.
Dans l'époque.
Parce que ça donne une odeur, en fait, parce que je parlais de saveur, une odeur et puis une couleur, en fait.
Et une connotation aussi, voilà. Une couleur. Ouais. Vos projets, Sylvain Boulouk, est-ce qu'il y en a...
Il y a plusieurs ouvrages qui sont...
En préparation, sur le feu.
Même plus qu'en préparation, ils sont rendus aux éditeurs
respectifs.
Mais tant que l'ouvrage n'a pas paru, parce que de temps en temps, il y en a des éditeurs qui ont des malheurs, donc tant que les ouvrages ne sont pas parus, j'en parle pas.
Je comprends.
C'est pas de la superstition, mais tant que l'ouvrage n'existe pas réellement, il n'existe pas, on va dire.
Ouais, je comprends. Des rencontres de prévues de votre côté?
Je dois revenir dans ces studios prochainement, mais mais en dehors de ça, non, pas.
Pas de.
Bah non, parce que la réunion. Il y a une émission à la télé que j'ai enregistrée sur la chaîne Histoire.
Très bien.
Et sinon, c'était la semaine dernière à Publico.
Oui, à Publico. Il y aura peut-être, de toute façon, Publico, il y a toujours des rencontres formidables. Voilà, on les salue bien.
Pour l'instant, il n'y a rien d'autre de prévu.
Rien d'autre prévu.
À venir.
Donc vous travaillez souvent sur plusieurs livres à la fois ou...
Oui, plutôt oui. J'ai du mal à me concentrer sur un objet unique. Il faut toujours j'en ai au moins deux sur le feu en même temps, parce que sinon je deviens obsessionnel et c'est mauvais pour l'entourage. Bon.
Est-ce que le fait avec Internet, parce qu'avant le travail d'archives, vous êtes jeune, mais est-ce que le fait qu'il y ait Internet, ça facilite ce travail d'archives, de recherche, de vos travaux avant?
Ça dépend, parce que les archives, moi, que pour beaucoup, elles étaient encore sur papier, celles que j'ai consultées et que j'essaye de donner un sens aujourd'hui, elles étaient sur papier. Non, en fait, une archive, c'est quand même un document papier d'abord. Alors après, certaines sont numérisées. Ça peut être pratique quand elles sont à l'autre bout du monde.
C'est ça.
Mais en même temps, je crois que le contact, c'est un peu comme la lecture de Proust. Le contact, c'est pas une madeleine, mais le contact avec le papier pour se rendre compte de ce que sont réellement les documents, de ce que c'est qu'une archive, me semble essentiel. C'est pas quelque chose de numérisé, une archive. C'est vraiment... Ça a une forme, enfin le papier peut avoir une forme, toucher une archive n'a pas le même sens que de voir un document sur Internet. C'est-à-dire, après, effectivement, quand on a une certaine pratique, on peut se dire, bon, si c'est numérisé, c'est pas grave, je sais ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas la même chose. Il y a la pelure du papier, Après, le problème, c'est quand on en est beaucoup à utiliser les mêmes archives, du papier dans des papiers des années 20 qui étaient assez fragiles fait qu'elles partent en lambeaux. Il vaut mieux que ce soit numérisé. Mais c'est quand même la même chose. Dépouiller la presse sur du papier a pas du tout la même. Pour moi, en tout cas, a pas du tout la même. Réalité que dépouiller à travers Internet. Enfin, dépouiller ces mêmes journaux sur Internet, même si je reconnais parfaitement que c'est extrêmement pratique, puisque c'est vrai qu'à 2h du matin, avec une insomnie, on peut se mettre à travailler. Mais après, il y a une particularité du contact avec l'archive. Et puis, deuxième chose, dans un carton d'archive, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver au départ. Ça, c'est, de temps en temps, on a des intuitions en disant « il faut absolument que j'aille voir ce carton, même si le titre ne correspond pas, parce que peut y avoir des éléments en plus ». Donc, il y a aussi cette le carton d'archive réserve son lot de surprises parfois, et ça c'est les joies du chercheur, en fait.
Vous tombez sur des cartons, mais je sens que voilà, puis ça bifurque, le hors-sujet peut vous amener à un autre sujet.
Et puis oui, effectivement, ou ça peut être juste le survol rapide qui peut donner une idée pour la suite d'autres sujets.
Et puis, je pense qu'il y a des archivistes qui doivent être des personnages de romans, mais ça sera peut-être pour eux.
Ça, c'est à eux oui, d'expliquer leur métier.
Mais ça peut faire... voilà, il y a tellement de livres qui naissent, des livres, etc., etc. Bah, merci à vous tous. Merci Sylvain Boulouk pour Meurtre à la Grange aux Belles, quand les communistes flinguaient les anarchistes. Ça vient de paraître aux éditions du Cerf avec une très belle couverture. Et puis, il y a tout. Il y a la somme de... C'est un livre qu'on peut lire... on pioche, voilà, il y a les documents et c'est vrai que ça suit. Mais je vous dis, pensez à une adaptation théâtrale, ça serait pas mal du tout. Voilà, si ma enfin, Boulouk.
Si avec 1000 personnes dans la salle au départ, il va falloir du public. Hein.
Et puis, merci Francis Vladimir donc pour les, qui est venu nous présenter les mardis de Jean-Loup. Donc tous les mardis au café de la mairie, place Saint-Sulpice à Paris. Et puis, on peut vous lire aussi, Francis Vladimir, Bérénice Édition Nouvelle, JMJ. Bérénice Édition Nouvelle, je pense qu'ils ont un site internet, on peut commander les livres.
Oui,
hein,
oui,
voilà.
Il n'est pas tout à fait finalisé, mais il va être finalisé.
Merci à vous tous. Merci à Flo Descailloux, qui est l'oreille de Bibliomanie et qui orchestre l'émission et nous accompagne avec des cocktails musicaux de son choix. Vous pouvez télécharger ou podcaster l'émission sur le site de Radio Libertaire. Vous pouvez télécharger, indiquer le lien des amis. C'est comme ça, aujourd'hui, que fonctionne la radio. Et je vous encourage vivement à aller en librairie. Merci à vous tous et à la fois prochaine. Merci à vous.
Alors pour terminer, du piano contemporain, un disque qui vient de sortir de Thierry Maillard, qui est compositeur et pianiste. Il a écrit ça pour sa mère, mais on peut l'écouter pour absolument tout. « Tu me manques ».
On a fermé les usines, il faudra bien vous le raconter. J'ai des chansons plein ma maison, des mélodies que doucement je chante pour passer le temps. Mais la chanson, la vraie chanson, est celle qui dans le silence a troublé notre indifférence. Que le ciel gris pour habiller notre vie, tout n'est pas si facile à chanter. Quand on connaît la misère, on a du mal à se taire, autant de peine à se raconter. J'ai des chansons plein ma maison, des mélodies que doucement je chante pour passer le temps. Mais la chanson, la vraie chanson, est celle qui dans le silence a troublé notre indifférence. Dans un nouveau matin, on oubliera nos chagrins, il sera venu le temps rêvé. On écrira des chansons sur des airs d'accordéon, au rythme des refrains à danser. Les mélodies de notre vie, légères comme la dentelle, aux épaules des demoiselles et nos souliers sur le plancher, à chaque pas de notre danse, n'auront qu'à donner la cadence.
Au bout de la rue, y êtes-vous jamais allé? Y a un casque à musique où personne ne vient jouer. Quand il pleut, les passants un court instant s'y arrêtent. Les gamins tournent autour avec leurs planches à roulettes. C'est un temple bizarre, une pagode oubliée. Au cœur du tintamarre des autos, des trolleys.